This is dedicated to the niggas that was down from day one. Welcome to Death Row.
Like we always do about this time.
Yeah, 9-2.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
À bon Richardo.
Une page d'histoire mise en récit par un texte des archives et des musiques choisies. Chaque dimanche à 15h sur France Culture, voici Jukebox. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous reviendrons sur l'émergence, au début des années 1990, du gangsta rap, cette forme de hip-hop originaire de la côte ouest des États-Unis et qui avait développé un style tapageur, bling-bling, sublimant la criminalité et plongeant, des années durant, le milieu du hip-hop américain dans une véritable guerre avec les musiciens de la côte est. Argent facile, loi des gangs, accès d'ultra-violence, désarroi d'une Amérique aux abois, l'engrenage allait culminer lors des meurtres à 6 mois d'intervalle de Tupac Shakur et Notorious Big, deux des figures charismatiques de cette rivalité esthétique. Aujourd'hui, Explicit Lyrics, oreilles sensibles s'abstenir, Tupac Shakur, Notorious Big, la guerre des raps. Comme les choses paraissent normales avant que tout ne déraille, ce sont juste de grosses cylindrées, rutilantes et frimeuses, des autoradios puissants, des mains musculeuses agrippées à des volants, des breloques autour du cou reflétant la lumière d'un jour sans fin. Avant que les choses ne s'emballent, les esprits s'abrutissaient de leur train-train. J'étais au boulot comme chaque jour à servir le café, penché sur le comptoir. J'étais devant la télé, j'étais encore au lit, je me suis fait virer le mois dernier. J'étais juste au volant, mec. Et puis, bang bang, j'ai sursauté. Bang bang, j'ai cru que c'était la télé. Bang bang, c'était une Chevrolet Impala de couleur noire, ça j'en suis sûr, sûrement le membre d'un gang, mais la gueule du tireur, ça non, je n'ai pas eu le temps. Moi, je n'ai rien vu, ni le modèle des voitures, ni les tatouages sur leurs biceps. J'ai juste entendu les coups de feu, les pneus qui crissent et puis plus rien. D'ailleurs, les clients vous le diront, j'ai renversé la moitié du café sur le comptoir. Vous avez encore des questions, inspecteur, parce que là, j'ai du boulot, moi. Les derniers témoignages, inaudibles, nagent dans une flaque de sang. Comme les choses paraissent normales avant que ça ne déraille, avant que les vitres d'un 4-4 dernier cri ne se baissent et que ne se pointe l'orbite resserrée d'un calibre. Une seconde plus tôt, fusait encore de ses mines patibulaires, les grands mots ont juré sur la vie de sa mère, l'amitié, la fidélité, la certitude d'écraser quiconque se mettrait en travers de sa route. Et puis soudain, dans la circulation ralentie par le début du rush hour, avait retenti une salve de détonation. S'était abattu l'effroi, faisant taire à jamais les bons mots et les flots, aussi virtuoses soient-ils. La Camarde, encore une fois, avant que les sirènes ne saturent le carrefour.
Once upon a time in the black part of the city.
Yo G, you better get out of here, man. 5-0.
Yo, why is cute, man? What's up, man? What's up?
About a punk ass nigga I knew named Jack. He wasn't that nimble, wasn't that quick. Jumped over the candlestick and burnt his dick. Ran up the street cause he was piping hot. Met a bitch named Jill on the bus stop. Dropped a line or two and he had the hoe. At that type of shit, he's a pro. So Jack and Jill ran up the hill to catch a little nap. Dumb bitch gave him the claps. Then he had to go see Dr. Bombay. Got a shot in the ass and he was on his way to make some money, why not? Down on Sesame Street, the dope spot. There he saw the lady who lived in a shoe. So dope out the front, by the back.
Atlanta crew. For the man that was really important, who lived down the street in an Air Jordan. Ride to the fella, Mr. Roger the Hose. Drove a 500 sitting on the Rizzos. He broke out, little old Pete smoked out. Saw her and her friend selling sheepskin.
Yo, yo, got them sheepskins. Yo, my auntie sheepskins. Yo, baby, what's up with that?
Hickory, dickory, dock. It was 12 o'clock. Cinderella ain't home. Must be giving up the cock. I don't doubt it. She is kind of freaky, of course. Had a fight with Snow White. She was fucking her dwarf. Saw a fight over colors, too. Red Riding Hood and Little Boy Blue. A bad influence, yo, I don't know. But Ice Cube would tell the kids how the story should go.
Yeah, money, that's it. Yeah, money, that's it. This little Russ in the house. Rock that shit, homie. Rock that shit.
Well, you know the rest.
Humpty Dumpty sat on the wall with a joint, drink some 8-Ball. Three little pigs in a coupe de ville. Looking for the wolf to kill. That fucked up and they won't. And Humpty used to be friends. Now they're enemies cause he's a traitor. Pulled out the Uzi Cruise by and sprayed him. Cinderella hoeing for the fellas. And Mr. Rogers is getting mighty jealous of the cash that the pigs were making. Time for the pigs to get turned to bacon. Cause Mr. Rogers found out quick that Humpty Dumpty was blown to bits. They said that the motherfucking wolf is next. So Mr. Rogers better watch his step. So he let the wolf know, we're gonna fuck up the pigs and take their hoe. Cause Cinderella is much too fast. Before 12, giving up ass. Double barrels all loaded and cocked. As soon as they show, they gonna get popped. They bailed down Sesame Street in quarters. Little Boy Blue was up front giving orders. Little did they know Cinderella was a fink. She called the cops, they got thrown in the clink. A bad influence, yo, I don't know. Ice Cube would tell the kids how the story should go. Hey yo man, was that dope enough for you?
Yeah, you are.
Better go home before I whoop your little bad ass.
Some bedtime story, huh?
It's a nice place to visit, but I wouldn't want to live here.
Yeah, good old Mother Goose, remember her? I fucked her.
Publié en mai 1990 par Ice Cube, A Gangsta's Fairy Tale, le conte de fées d'un gangster, dans lequel, détournant les codes des histoires pour enfants, ce rappeur originaire de Los Angeles nous faisait plonger dans le quotidien des bas-fonds de la ville, sexe, drogue, bagnole et violence des gangs. Une mauvaise influence, faisait-il mine de s'interroger, tout en ajoutant qu'il ne faisait au fond que raconter la réalité. Comme elle semblait loin, l'époque des pionniers qui, au cours des années 70, savaient, du Bronx à Brooklyn via Harlem, poser les bases du genre, établi la grammaire du hip-hop via ses quatre piliers, des vinyles posés sur des platines, des mots scandés dans des micros, les danses échevelées des b-boys ou des b-girls, et l'art du graffiti. Recyclant les rythmiques des vieux disques funk ou soul, détournant l'électricité des lampadaires pour mieux allumer la ferveur des premières block parties, Kool Herc, Afrika Bambaataa et d'autres avaient fait décoller le hip-hop, offrant à la jeunesse des ghettos autre chose que la violence des gangs, s'auto-célébrant dans des textes frimeurs, mais bon enfant. Par la suite, vers 1982, le hip-hop s'était saisi pour mieux les dénoncer des problématiques du monde réel. Violence, drogue, abandon par les pouvoirs publics. C'est l'âge, notamment, de Grandmaster Flash qui, dans The Message qu'on entend en ce moment, avait fait entrer le hip-hop dans l'ère du rap conscient, dans l'âge adulte. Toujours ancré sur la côte est états-unienne, le hip-hop avait alors connu son premier âge d'or avec l'émergence de Run-DMC, des Beastie Boys, de Public Enemy ou de KRS-One. Les rivalités entre groupes s'avivaient, les postures se faisaient plus agressives, d'autant que le hip-hop était rapidement devenu un business lucratif et que la part du gâteau s'annonçait mondiale. C'est alors que le rap avait commencé à voyager et, logiquement, s'était déplacé vers l'ouest, en Californie, du côté de Los Angeles. Après quelques tentatives isolées, entre 83 et 86, le rap West Coast s'était d'abord incarné dans un groupe, NWA, Niggas with Attitude, autrement dit, des nègres qui ont la classe. Fondé en 86 autour d'un certain Andre Young, alias Dr. Dre, jeune producteur et l'une des meilleures oreilles du rap d'alors, mais aussi Dizzy E à la tête du label Ruthless, impitoyable. C'est de là, bientôt rejoint par Ice Cube qu'on entendait plus tôt, et de deux autres types veulent raconter leur vécu. en août 88, ils sortent donc leur premier album, Straight Outta Compton. Autrement dit, tout droit sorti de Compton, leur ville, cette cité sans âme de 90 000 habitants reléguée au sud de Los Angeles. L'album constituera la pierre angulaire du gangsta rap. Comme le dit Dr. Dre en ouverture du titre éponyme, vous êtes maintenant sur le point d'assister à la puissance du savoir de la rue.
You are now about to witness the strength of street knowledge.
Coming.
Straight out of Compton is a brother that'll smother your mother and make your sister think I love her. Dangerous motherfucker raising hell. And if I ever get caught, I make bail. See, I don't give a fuck. That's the problem. I see a motherfucking cop, I don't dodge him. But I'm smart, lay low, free for a while. And when I see a punk pass, I smile. To me, it's kind of funny. The attitude's showing nigga driving. But don't know where the fuck he going, just rolling. Looking for the one they call easy. But here's a flash.
Straight Outta Compton, où tour à tour Ice Cube, MC Ren et Eazy-E déroulent leur pédigré à coups de rodomontades agressives, sexuelles ou guerrières.
Right about now, NWA quarters in full effect. Judge Dre residing.
À sa sortie, le disque déclenche une vive controverse, notamment à cause du titre « Fuck the Police », dans lequel le groupe dénonce le racisme et la violence de la LAPD. Sous la pression exercée par une association chrétienne, un haut cadre du FBI adresse une lettre d'avertissement au label qui, immédiatement exploité par ce dernier, offre un coup de pub inespéré et gratuit, qui plus est, au disque, posant NWA comme le groupe le plus dangereux du monde. Nombre de stations de radio rechignent à diffuser l'album, cette apologie des assassinats de flics, ces femmes traînées dans la boue, cette vie sous stupéfiants. Mais malgré cela, malgré les articles injurieux, malgré l'interdiction de diffusion sur MTV, l'album explose, se vend rapidement à 500 000 exemplaires, puis à 2 millions avant la fin de l'année 88, bénéficiant notamment du bouche à oreille des gangs de Los Angeles. Les gangs de la Cité des Anges qui avaient prospéré depuis les années 1920, contrôlant alors la prostitution et le jeu. Dans les années 50, ils se battaient à coups de battes de baseball, de chaînes ou de couteaux. À la fin des années 60, beaucoup se réclamaient des liens avec les Black Panthers. Ces gangs prospèrent sur la misère économique et sociale des quartiers populaires du sud de la ville, notamment à Watts ou bien à Compton, où depuis longtemps sont cantonnés les Noirs de l'agglomération, oubliés par les pouvoirs publics. Watts où déjà, en 1965, éclataient d'importantes émeutes. À Compton, en 69, un nouveau gang voit le jour, les Crips, qui choisissent le bleu comme emblème de la couleur des foulards dont ils se masquent le visage pendant leurs opérations. Puis, en 72, une dissidence a lieu, donnant naissance aux Bloods, adoptant logiquement comme signe distinctif des bandanas rouge sang. Rouge contre bleu, Bloods contre Crips, de fusillade en vie perdue, le sang coule dans les ghettos de Los Angeles. Ces gangs dealent de la drogue, cocaïne et crack qui vient remplacer l'héroïne. Les plus pauvres se shootent à la PCP, un puissant tranquillisant pour chevaux qui vous change en zombies. Dans les années 90, les gangbangers, comme on les appelle, taguent les murs des passages souterrains et circulent dans de luxueux SUV, multipliant les drive-by shootings, ces assassinats commis en voiture. Cette violence est sublimée, enjolivée par les rappeurs, mais elle est bien réelle. Et puis il y a les bavures des flics, des forces de l'ordre rongées depuis toujours par le racisme, multipliant les passages à tabac d'habitants noirs au nom de prétendues insultes à agents. La LAPD, où, en apparence, cordialité et solidarité sont de mise entre tous, mais où, à l'heure de l'appel du matin, les policiers noirs s'asseyent entre eux, à l'écart des blancs et des latinos. Et puis, en 1991, une affaire allait révéler au grand jour les excès policiers. Au soir du 3 mars, Rodney King, un automobiliste noir, tente de se soustraire à un contrôle. Il a bu, il roulait trop vite, alors il s'enfuit. Finalement rattrapé par la patrouille, il est extrait de son véhicule et passé à tabac par quatre flics blancs. La scène est filmée par un riverain au caméscope et les images passent en boucle sur les télés locales. L'abus de violence est manifeste, sauf qu'en première instance, les flics sont innocentés par un tribunal local. Même le maire de Los Angeles, Tom Bradley, s'en émeut.
Aujourd'hui, un jury américain a décrété que ce que nous avons vu de nos propres yeux n'était pas un crime. Aujourd'hui, ce jury nous a demandé d'accepter qu'un homme sans défense puisse se faire rouer de coups. Aujourd'hui, ce jury nous a demandé de tolérer les exactions de policiers dont la fonction première est de servir le citoyen américain. Mes amis, je suis là pour dire non. Non, nos yeux ne nous ont pas trahis. Nous avons vu ce qui s'est passé, et ce qui s'est passé est un crime.
Immédiatement, les ghettos de South Central s'embrasent. L'état d'urgence est décrété, mais l'envoi de milliers de soldats de la garde nationale ne parvient pas à enrayer cette nouvelle spirale dont l'Amérique est coutumière. Le déchaînement des émeutiers paraît gratuit, allumant par milliers les incendies ou pillant toutes sortes de magasins, depuis les boutiques de hi-fi ou de stéréo jusqu'aux petites épiceries ou débits d'alcool tenus par des Sud-Coréens. Minorité détestée par les Noirs de L.A. pour leur prix trop élevé. In fine, on comptera plus de 50 morts, 2000 blessés et 1 milliard de dollars de dégâts. L'année suivante, les policiers impliqués dans le passage à tabac de Rodney King seront rejugés et deux d'entre eux écoperont de 30 mois de prison. Mais l'affaire Rodney King viendra alimenter durablement la défiance de la jeunesse noire états-unienne envers ses institutions.
If you ain't down for the Africans here in the United States, period, point blank, if you ain't down for the ones that suffered in South Africa from apartheid and shit, damn it, you need to step your punk ass to the side and let us brothers and us Africans step in and start putting some foot in that ass.
Told us today, in other words, you're still a slave. No matter how much money you got, you still ain't shit.
Sitting in my living room, calm and collective, feeling that gotta get my perspective. Cause what I just heard broke me in half, and half the niggas I know, plus the niggas on the road spelling. Laugh now, but cry much later. You see, when niggas get together, they get mad cause they can't fade us. Like my niggas from South Central Los Angeles, they found that they couldn't handle us. Bloods, Crips on the same squad, with the S.A.'s up, and nigga, it's time to rob and mob and break the white man off something lovely. I don't love them, so them can't love me. Yo, straight putting it down, getting my scoot on. It's jumping off in Compton, so I got to get my loot on and come up on me some furniture or something. Got a VCR in the back of my car that I gank from the sloths and swap me. And motherfuckers better not try to stop me, cause they will see that I can't be stopped. Cause I'ma cock my Glock and pop till they all drop.
Yes, in the videotape we see some of the people in the crowd throwing things at the officers.
And swinging at them as well. There was a young woman there who took a swing at an officer with some object in her hand.
How many niggas are ready to lose?
Yeah, so what you wanna do? What you wanna do?
I said, how many niggas are ready to lose? I got my finger on the trigger, so niggas wonder why. For living in the city, it's do or die. I got my finger on the trigger, so niggas wonder why. For living in the city, it's do or die.
One time trigger happy, no nigga love. 187 time, time to grab the glove. Can't get Prince on a nine, I throw away. Or get Prince on my Uzi when it's play. Pop, 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 another motherfucker drop. And I get relief like pop, pop, fizz, smash. I crash his head like a window. I'm high off the endo, creeping with the quickness to the cut. Bust one to his head while he munches on the donut and crack up. So now we best to back up. I guess I got to pack up, filling the clip up. I ship up town, but motherfucking cops are all around. Helicopters flying, these motherfuckers trying to catch me and stretch me on death row. But hell no, the pro black refused to go.
This now covers a very, very wide area of Los Angeles where these fires have been ignited. I mean, from here to the South Central is a long way.
Culture, jukebox, aujourd'hui, les douleurs intercostales de l'Amérique hip-hop.
Black blam, blam to them four. Listen to the shots from my nigga Doggy Dog. Dr. Dre, them boss gunshots. Diggity Daz and RBX, them boss gunshots. Come again.
Dr. Dre, The Day the Niggas Took Over, autrement dit le jour où les Noirs ont pris le pouvoir, écho aux émeutes de Los Angeles de 1992. C'est dans ce contexte de violence collective qu'avait émergé l'un des labels les plus puissants du gangsta rap, Death Row Records, fondé en 91 par un certain Suge Knight.
I know you're gonna dig this.
Knight, de son vrai prénom Marion, avait grandi à Compton. Pour lui éviter de basculer dans les gangs, ses parents l'avaient orienté vers le sport, l'athlétisme, puis vers le football américain, Marion intégrant l'équipe de l'université du Nevada à Las Vegas. Calme, amical, peu porté sur les drogues ou l'alcool, ça s'était plutôt bien passé. Mais tout avait changé lors de sa dernière saison à l'université. Il était alors devenu un gros dealer, ne quittant jamais son calibre, devenant violent avec les filles. Doté d'une carrure de déménageur, il se met à travailler comme garde du corps pour un chanteur de Los Angeles, puis pour un autre type qui souhaitait monter un label de musique à Beverly Hills. Il y rencontre les N.W.A., Eazy-E, Ice Cube et Dr. Dre. En 91, celui qui se fait désormais appeler Suge Knight fonde son propre label Death Row, le couloir de la mort. Il utilise pour cela l'argent qu'il avait accumulé les années précédentes en dealant de la drogue et Death Row servira longtemps à blanchir cet argent, Knight prenant l'habitude de payer ses artistes en poudre plutôt qu'en liasse. Usant de méthodes de voyous, il dégage ses associés, menace les artistes afin qu'ils rejoignent son écurie et surtout, il exploite les vulnérabilités. Lui qui n'a peur de rien, il n'hésite pas à semer le trouble entre musiciens pour mieux les assurer de sa protection, sachant que les rappeurs, s'ils jouent les durs, le sont rarement en réalité. Et puis, en 92, Suge Knight fait paraître le premier album solo de Dr. Dre, The Chronic, du nom d'une variété de cannabis qu'on trouve alors sur place. Les paroles relatent la vie des ghettos, les violences entre gangs, le sexe cru, ou bien, comme dans la chanson suivante, permettent aux rappeurs de régler leurs comptes.
Mr. Buster, where the fuck you at? Can't scrap a lick, so I know you got your dick on hard from fucking your road dogs, the hood you threw up with, niggas you grew up with. Don't even respect your ass, that's why it's time for the doctor to check your ass, nigga. Used to be my homie, used to be my ace. Now I wanna slap the taste out your mouth. Make it bow down to the rope. Fucking me, now I'm fucking you, little hoe. Oh, don't think I forgot. Let you slide, let me ride. Just another homicide. Yeah, it's me, so I'ma talk on. Stomping on the easiest streets that you can walk on. So strap on your Compton hat, your lopes, and watch your back, cause you might get smoked, low. And pass the bud, and stay low-key, BG, cause you lost all your homies' love. Now call it what you want to, you fucked with me, now it's a must that I fuck with you.
1992, Dr. Dre pour ce Fuck With Dre Day, l'un des premiers exemples de diss songs, autrement dit des disrespecting songs, une chanson adressée au rappeur Eazy-E, son ancien complice au sein du groupe N.W.A. avec qui il s'était brouillé pour des raisons financières. Ces diss songs, aussi choquantes soient-elles, qui renvoyaient pourtant à l'une des composantes les plus anciennes du hip-hop, l'embrouille par le verbe qu'on retrouvait déjà 50 ans plus tôt dans les Thousands ou Dirty Thousands, ces jeux d'insultes rimées consistant, lors de duels entre deux protagonistes, à déverser sur la tête de son rival un tombereau d'insultes concernant notamment sa mère. Au début du hip-hop, les artistes plastronnaient, se dénigraient les uns les autres, mais les choses restaient plutôt bon enfant. Sauf qu'au début des années 90, la montée en puissance du rap californien tend les choses et allume la guerre entre l'Est et l'Ouest.
Shit, motherfucker, step to the ranch here, 'cause Tim Dog is here. Let's get right down to the nitty gritty and talk about a bullshit city. Talking about niggas from Compton, they're no comping, they truly ain't stomping. Tim Dog, a black man's task, I'm so bad I whip Superman's ass.
Dès 91, la riposte de la côte Est avait été enclenchée par un certain Tim Dog, originaire du Bronx et qui avait sorti son premier album comprenant un titre au message sans ambiguïté, Fuck Compton. Dans ce titre, il s'en prend violemment au rappeur de N.W.A., clamant « Vous et vos histoires de gang, vous vous battez pour des couleurs, c'est des conneries ça, c'est pour les petits branleurs. » La réponse à la riposte n'allait pas tarder, suivie de la riposte à la réponse, etc. C'est alors qu'était entré en scène celui qui allait, une poignée d'années, dominer le gangsta rap. Il s'appelle Tupac Shakur. Il était pourtant né à New York, à East Harlem plus précisément, dans l'une de ces tours de briques où les ascenseurs ne fonctionnent jamais mais où la violence règne à tous les étages. Ses parents l'avaient prénommé ainsi en hommage à un révolutionnaire péruvien qui avait conduit un soulèvement contre l'Espagne. De fait, à la maison, sa cause politique, ses deux parents sont membres du Black Panther Party. Et ça ne fait pas que causer. Sa mère, au cadre du mouvement, a été arrêtée. Son parrain est reconnu coupable du meurtre d'un enseignant. Son beau-père, qui avait notamment commis un braquage de fourgon blindé, est, au début des années 80, l'un des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI. Enfant, Tupac semble chercher des dérivatifs. À 12 ans, il s'inscrit dans une troupe de théâtre. Puis, à Baltimore, où sa famille a déménagé, il étudie la poésie, le jazz, le ballet. Il joue Shakespeare et, en parallèle, il découvre le rap. Il a de l'humour, des qualités relationnelles et même s'il n'arbore pas les vêtements à la mode, il se forge une certaine popularité. Résultat, quand sa famille déménage de nouveau et vient s'installer en Californie, il s'adapte, devenant Roddy et danseur d'un groupe de hip-hop d'Oakland, Digital Underground, qui l'accompagne rapidement au micro. Puis, en 1991, il a 20 ans, lorsque paraît son premier album, Tupacalypse Now.
Living on the streets is a delusion. Even a smooth criminal one day must get caught. Shot up or shot down with the bullet that he bought. 9mm kicking, thinking about what the streets do to me. Cause they never taught peace in the black community. All we know is violence, do the job in silence. Walk the city streets like a rat pack of tyrants. Too many brothers, daily headed for the big pen. Niggas coming out worse off than when they went in. Over the years I've done a lot of growing up. Get drunk, throwing up, cuffed up. Then I said I had enough. There must be another route, way out to money and fame. I changed my name, played a different game. Tired of being trapped in this vicious cycle. If one more cop harasses me, I just might go psycho. And when I get him, I hit him with a bum rush. Only a lunatic would like to see a skull crush. Yo, if you're smart, you really let me go cheap. But keep me cooped up in this ghetto and catch the Uzi. They got me trapped. They got me trapped.
Nah, they can't keep the black man down.
Trapped.
They can't keep the black man down.
Trapped.
Nah, they can't keep.
1991, le chanteur Tupac pour son premier album, Tupacalypse Now. Un album sur lequel on trouve aussi une chanson intitulée I Don't Give a Fuck, dans laquelle il insulte pêle-mêle la police de San Francisco, le shérif du comté de Marin, le FBI, la CIA, Bush, l'Amérique tout entière. L'album marque son décollage, se vendant les années suivantes à plus de 500 000 exemplaires, mais là non plus, non sans polémique. L'année suivante, en 92, un policier du Texas est tué par un adolescent qui écoutait l'album. Le vice-président des États-Unis s'en mêle, exigeant que l'album soit retiré des ventes, sans succès. Et puis, en août 92, en marge d'un concert qu'il vient de donner, Tupac signe des autographes. Mais soudain, il se fait critiquer par des spectateurs pour avoir dénigré leur ville. Le ton monte et Tupac Shakur sort de sa poche un flingue, le fait tomber et son frère, en le ramassant, tire plusieurs coups. L'une des balles tue un enfant de 6 ans qui faisait du vélo dans une cour d'école à 100 mètres de là. Arrêtés, les deux frères seront finalement libérés sans inculpation et ils dédommageront les parents du gamin. C'est comme si, dans cette histoire, tout était toujours réglé par l'argent. D'autant que Tupac génère des revenus considérables avec la parution de son deuxième album l'année suivante, en 93, album intitulé « Strictly for my niggas ». Le terme « niggas » étant ici l'acronyme de « Never ignorant getting goals accomplished », autrement dit, ne jamais ignorer la réalisation de ses objectifs. L'album s'écoulera à 1,5 million d'exemplaires. Et à ce niveau de vente, on aime ou on n'aime pas, mais le gangsta rap devient la bande-son d'une génération.
Here we go, turn it up, let's start. from block to block, we're snatching hearts and jacking marks. And the punk police can't fake me a minute. We can have peace someday, G. But right now I got my mind set up. Looking down the problem, but now nah, get up. Cause it's time to make the payback fat. To my brothers on the block, better stay strapped black and accept no substitutes. I bring truth to the youth, tear the roof of my old school. Oh no, I won't turn the other cheek. Case you can't see us while we burn the other week, huh? Now we got them in the smash.
Autrement dit, gueuler si vous m'entendez, extrait du deuxième album de Tupac, Strictly for My Niggas, 1993. À cette époque donc, s'exacerbent les rivalités entre rappeurs de l'Ouest et ceux de l'Est. À l'Ouest, on trouve notamment Tupac, mais aussi un certain Snoop Dobby Dogg, qui a également signé chez Death Records. À l'Est, New York n'a pas dit son dernier mot et voit ces années-là apparaître de nombreux groupes comme le Wu-Tang Clan ou bien Nas. Toutefois, ces rivalités n'empêchent pas, parfois, des amitiés. Ainsi, celle qui lie Tupac, devenue figure du rap californien, avec un autre artiste originaire de Brooklyn, Notorious B.I.G. Notorious B.I.G., de son vrai nom Christopher Wallace, qu'on surnomme également Biggie en raison de sa forte corpulence, plus de 150 kilos. Né à Brooklyn, il avait lui aussi connu une enfance turbulente, élevé par une mère jamaïcaine qui cumulait deux boulots. Son rejeton travaille bien à l'école, alors elle ne voit pas qu'il dégringole, qu'en fait, depuis l'âge de 12 ans, il passe son temps à dealer. Et puis les choses s'étaient corsées. À 17 ans, il avait abandonné ses études. S'était retrouvé appréhendé pour port d'armes illégales à Brooklyn. Et puis 2 ans plus tard, il s'était fait condamner à 9 mois de prison ferme pour vente de crack. À sa sortie tôle, lui qui depuis longtemps déjà se passionnait pour le hip-hop, avait enregistré une première démo.
Well, who is Biggie Smalls? The microphone murderer, mass mayhem maker. P.I.G.'s on the mic, call the undertaker. Make an appointment, schedule an interview. Because you know what big man's about to do.
Ce coup d'essai, mal enregistré, exprime toutefois une telle énergie qu'il attire l'attention de la presse spécialisée, notamment du magazine The Source, la bible du hip-hop d'alors, mais aussi l'attention des producteurs. En 93, Notorious B.I.G., de passage à Los Angeles, obtient d'un dealer l'adresse de Tupac Shakur. Ce dernier le fait rentrer chez lui, lui offre un énorme sac d'herbe, et une fois tout ce petit monde gentiment défoncé, Tupac sort ensuite un autre sac rempli de flingues. Ils jouent, ils déconnent, ils font griller des steaks, et cette nuit-là, Tupac et Notorious B.I.G. se lient d'amitié. D'ailleurs, à chaque fois qu'il passe en Californie, Biggie squatte le canapé de Tupac et, à l'inverse, quand Shakur débarque à New York, il passe prendre Biggie pour l'emmener faire un tour dans sa limousine blanche avant de regagner sa suite au Waldorf Astoria. Notorious B.I.G. est fasciné par la réussite matérielle et artistique de Tupac, déjà disque de platine et qui vient de faire une apparition remarquée au cinéma. Alors, il se place sous son aile. Et puis Notorious B.I.G. s'était attelé à l'enregistrement de son premier album, s'entourant des meilleurs producteurs de la côte Est, et notamment de Sean Combs, le futur Puff Daddy. Sorti en septembre 1994, l'album Ready to Die connaît un succès immédiat, porté par des titres comme Big Papa, qui, pour la première fois, avec son rythme plus lent et ses paroles un peu plus apaisées, fait sortir le gangsta rap des ghettos afro ou latino.
To all the ladies in the place with style and grace, allow me to lace these lyrical douches in your bushes. Who rock grooves and make moves with all the mommies? The back of the club, sipping my wet is where you find me. The back of the club, macking holes, my crew's behind me. Mad question asking, blunt passing, music lasting. But I just can't quit because one of these honeys Biggie got to creep with, sleep with, keep the ep a secret. Why not? Why blow up my spot? Cause we both got hot. Now check it, I got more Mac than Craig and in the bed. Believe me, sweetie, I got enough to feed the needy. No need to be greedy. I got mad friends with Benzes, see notes by the layers. True fucking players. Jump in the Rover and come over. Tell your friends jump in the GF3. I got the chronic by the tree.
I love it when you call me
throw your hands in the air if you's a true player.
I love it when you call me Big
Papa. To the honeys getting money playing niggas like dummies.
I love it when you call me Big Papa.
You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place.
Why?
Cause I see some ladies tonight that should be having my baby. Straight up, honey, really I'm asking. Most of these niggas think they be macking, but they be acting. Who they attracting with that line? What's your name? What's your sign? Soon as he buy that wine, I just creep up from behind and ask you what your interests are. Who you be with? Things to make you smile. What numbers to dial? You gon' be here for a while. I'm gon' call my crew. You gon' call your crew. We can rendezvous at the bar around two. Plans to leave. Throw the keys to little C's. Pull the truck up front and roll up the next blunt so we can steam on the way to the telly. Gon' fill my belly. A T-bone steak, cheese, eggs, and Welch's great. Conversate for a few, cause in a few we gon' do what we came to do. Ain't that right, boo?
True.
Forget the telly, we just go to the crib and watch a movie in the jacuzzi. Smoke L's while you do
me. I love it when you call me Big Papa.
Throw your hands in the air if you's a true player.
I love it when you call me Big Papa.
To the honeys getting money, playing niggas like dummies.
I love it when you call me.
You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place.
Why?
Cause I see some ladies tonight that should be having my baby.
How you living, Biggie Smalls?
In mansion and Benzes, giving ends to my friends, and it feels stupendous. Tremendous cream, fuck a dollar and a dream. Still tote gas strapped with infrared beams.
What?
Chopping O's, smoking line optimals. Money, hoes, and clothes, all a nigga knows. A foolish pleasure, whatever. I had to find the buried treasure. So grams I had to measure. However, living better now, coochie sweater now. Drop top BMs, I'm the man, girlfriend.
Honey, check it. Tell your friends to get with my friends. We could be friends. Shit, we could do this every weekend.
That's right.
Alright? Is that alright with you?
Yeah, keep banging.
I love it when you call me Big Poppa.
Throw your hands in the air if you's a true player.
I love it when you call me Big Poppa.
To the honeys getting money, playing niggas like dummies.
I love it when you call me Big Poppa.
You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place.
Wow.
Cause I see some ladies tonight that should be having my baby. Baby.
Check it out. Full shit for that ass. Puff Daddy, Biggie Smalls, Junior Mafia, represent, baby, baby.
1994, Big Poppa, extrait de Ready to Die, album de Notorious Big, qui assiera la notoriété du nouveau label Bad Boy, créé par Puff Daddy, un producteur new-yorkais de 25 ans, et qui, les années suivantes, sera le grand rival de Death Row Records. L'amitié entre Notorious Big et Tupac Shakur, elle, avait tourné court lorsque ce dernier avait été victime d'une agression en novembre 1994. Ce jour-là, Tupac s'était rendu dans un studio situé près de Times Square à New York. Lui et son producteur tombent nez à nez avec quelques mecs louches vêtus de treillis. Mais Tupac ne s'inquiète pas, il sait que quelques étages plus haut, son pote Notorious Big enregistre. Mais avant qu'il ne rentre dans l'ascenseur, les types en treillis les mettent en joue et leur ordonnent de se coucher à terre. Tupac se fait passer à tabac et piquer ses 40 000 $ de bijoux. Des coups de feu éclatent et le blessent. Tandis que ses agresseurs se font la malle, il parvient à faire monter l'ascenseur et lorsque les portes s'ouvrent, il affirmera ensuite avoir vu Notorious Big et Puff Daddy comme étonnés qu'ils soient encore vivants, comme si tout ça n'était qu'un coup monté. Les intéressés démentent, mais peu importe, la hache de guerre est déterrée. Quelques mois plus tard, rattrapé par une affaire d'agression sexuelle, Tupac est condamné à 1 an et demi de prison.
When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies, the same drama. When things went wrong, we blamed mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama from a jail cell.
Tandis qu'il est incarcéré, Tupac fait paraître son album suivant, Me Against the World, qui explose les chiffres des ventes. Il y chante notamment Dear Mama, hommage au courage de sa mère. Entre quatre murs, il se plonge dans des lectures choisies, Le Prince de Machiavel, L'Art de la Guerre de Sun Tzu. Les mois passent, son affaire est finalement révisée en appel, mais malgré les ventes de son album, Tupac est incapable de payer la caution. C'est finalement Suge Knight, le patron de Death Row Records, dont on parlait plus tôt, qui débourse 1,5 million de dollars pour le sortir de là. En échange, Tupac s'engage à fournir 3 disques. Le premier, sorti en juin 1996, comprend notamment un titre qui s'adresse directement à Notorious Big, dont la célébrité a, entre-temps, explosé, ce qui n'arrange pas son humeur. Dans Eat Them Up, Tupac règle ses comptes avec son ancien ami, le vouant aux gémonies, assurant avoir couché avec sa femme et ridiculisant ses qualités de rappeur.
First off, fuck your bitch in the clique you claim. Westside, when we ride, come equipped with game. You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad boys, niggas fuck for life. Plus, Puffy tryna see me weak, hearts I rip. Biggie Smalls and Junior Mafia, some mark ass bitches. We keep on coming while we running for your juice. Steady gunning, keep on busting at the fools. You know the rules. Lil Caesar, go ask your homie how I leave you. Cut your young ass up, leave you in pieces. Now be deceased. Lil Kim, don't fuck around with real G's. Quick to snatch your ugly ass off the streets.
I don't even know why I'm on this track. Y'all niggas ain't even on my level. I'ma let my little homies ride on you bitch made ass bad boy bitch.
Yeah. Get out the way, yo, get out the way, yo. Biggie Smalls just got dropped. Little move past the mat and let me hit him in his back.
Frank Wright, need to get spanked right for setting traps. Little accident murderers, and I ain't never heard of ya. Poisonous cats attack when I'm serving ya. Spank and shake your whole style when I gank. Guard your rank, cause I'ma slam your ass in the paint. Puffy weaker than the fucking block I'm running through, nigga. And I smoke a Junior Mafia in front of you, nigga. With the ready power, tucked in my gas under my Eddie Bauer. Your clout petty sour, I'll push packages every hour. Hit them up.
Grab your blocks when you see Tupac. Call the cops when you see Tupac. Who shot me, but your punks didn't finish. Now you're about to feel the wrath of a menace. Nigga, we hit him up. People, how we do it, keep it real. It's penitentiary steel. This ain't no freestyle battle. All you niggas getting killed with your mouths open. Trying to come up off of me, you in the clouds open. Smoking dope, it's like a Sherman. Niggas think they learn to fly, but they burn, motherfucker. You deserve to die. Talking about you getting money, but it's funny to me. All you niggas living bummy, why you fucking with me? I'm a self-made millionaire. Thug living out of prison, pistols in the air. On the couch and beg a bitch to let you sleep in the house. Now it's all about Versace. You copy my style. Five shots couldn't drop me. I took it in smell. Now I'm about to set the record straight. With my AK, I'm still the thug that you love to hate. Motherfucker, I'm from
1996, Tupac pour ce Hit Them Up. Sommet de la vulgarité du gangsta rap, mais illustration de l'animosité qui était alors capable d'animer les vedettes du rap.
Together, black men, unity, black men. Freedom, black men! Justice, black men! Welcome to the Million Man March!
Alors que l'Amérique n'en finit pas de s'enfoncer dans la défiance raciale, que Louis Farrakhan, le très sulfureux leader de la Nation of Islam, harangue les foules devant le Capitole de Washington, la guerre des raps se poursuit. Ici, il n'est pas question de lutte raciale, d'ailleurs tous les protagonistes ou presque sont noirs, il s'agit de frime, de fierté, de vanité, et c'est à qui gueulera le plus fort. Exemple parmi d'autres, le groupe californien The Dog Pound, qui publie en 95 un morceau intitulé New York, New York, dans le clip duquel ils sont filmés se baladant dans les rues aussi grandes que des gratte-ciels, détruisant des voitures ou défonçant à coups de pied des buildings. Au passage, MTV fait son beurre de cette guéguerre et le clip tourne en boucle. Réponse du berger à la bergère, des rappeurs new-yorkais sortent le titre L.A., L.A. où, filmé comme il se doit en contre-plongée, on voit les deux chanteurs attraper deux types portant une casquette siglée de la Cité des Anges, les charger dans le coffre d'une voiture avant de les balancer ligotés du haut d'un pont. Et sinon, ça s'arrête quand, ces conneries? Eh bien, logiquement, quand les principaux combattants disparaissent. Dans la nuit du 7 septembre 1996, Tupac Shakur, plus libre que jamais, assiste à un match de boxe à Las Vegas. Mike Tyson aplatit son adversaire dès le premier round. Alors tout ce petit monde quitte le casino, remonte dans des berlines, non sans avoir au passage roué de coups les membres d'un gang local, la routine. Tandis que la cohorte de véhicules remonte le strip de Las Vegas parmi les néons, une Cadillac blanche vient se garer à ses côtés. Par la fenêtre qui s'ouvre, le bras d'un homme armé d'un Glock tire 13 coups de feu. 4 balles atteignent Tupac Shakur qui décède les jours suivants, il avait 25 ans. Réponse du berger à la bergère ou simple hystérisation des échanges, 6 mois plus tard, dans la nuit du 8 au 9 mars 1997, Notorious B.I.G. tombe à son tour dans des circonstances similaires, tandis que son SUV sortait d'un parking de L.A. sur Miracle Mile. Une Chevrolet Impala était venue là aussi se ranger à sa droite et en avait jailli une gerbe de 9 mm. Biggie Smalls succombait dans la nuit, 24 ans au compteur. Dans la foulée sortirait son dernier album posthume intitulé Life After Death. Prémonitoire, sauf que le gangsta rap n'était au fond qu'un commerce avec la mort, une éternelle mise en scène de la fin de ses protagonistes.
Set tripping banger, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life to or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know.
L'omerta qui règne dans ces milieux empêchera sans doute de jamais connaître les commanditaires de ces assassinats, même si, dans un livre d'investigation, le journaliste américain Randall Sullivan avance que de nombreux policiers de Los Angeles pourraient être mouillés dans ces deux meurtres. D'autres soupçons se sont également portés sur le ténébreux patron de Death Row et, de fait, Such Knight, qui n'a jamais raccroché de son comportement erratique, a enchaîné les condamnations et dort encore aujourd'hui en prison pour le meurtre d'un producteur commis en 2015. Mais revenons au milieu des années 90. Sur le moment, la disparition de Tupac et de Biggie plombe l'ambiance. Ice-T, le vétéran du rap qui pourtant en a vu d'autres, déclare que pour la première fois de sa vie, il a la trouille. Snoop Dobby Dogg, l'autre star du label Death Row, annule plusieurs dates de sa tournée, etc., etc. Louis Farrakhan aura beau organiser des cérémonies de réconciliation, l'apaisement entre les cercles ennemis du hip-hop américain mettra des années à s'instaurer.
All's my life I has to fight, nigga. All's my life I hard times like, yeah. Bad trips like, yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up. But if God got us, then we gon' be alright.
Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright.
And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, even boom with the bass down. Skimming, and let me tell you about my life. Painkillers only put me in a twilight. With pretty pussy and Benjamin is the highlight. Now tell my mama I love her, but this what I like. Lord knows, 20 of them in my Chevy. Tell them all to come and get me, reaping everything I sow. So my karma come in heaven, no preliminary hearings on my record. I'm a motherfucking gangster, silence for the record. Tell the world I know it's too late. Boys and girls, I think I've gone crazy. Trying to side my vices all day. Won't you please believe when I say, when you know we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go?
C'est sur ce titre enregistré plus récemment par un autre rappeur venu de Compton, Kendrick Lamar, que se referme ce numéro de Jukebox. Aujourd'hui, Tupac Shakur, Notorious Big, la guerre des raps. Merci à Pierre Plantin et à Lily Cornert pour leur préparation, ainsi qu'à Sophie Enoch, à Lina, à lire notamment L.A. Behrens, enquête sur les meurtres de Tupac Shakur et Notorious Big par Randall Sullivan, paru en français chez Rivage Rouge, ainsi que Gangsta Rap, signé Pierre Ville, paru chez Le Mot et le Reste. Toutes ces informations, vous les retrouvez sur la page de Jukebox, depuis laquelle vous pouvez également réécouter ou télécharger cette émission, ainsi que nous faire part de vos commentaires. Merci à Agnès Catou pour sa réalisation, à Pierre Monteil aujourd'hui à la console, au micro à Maurice Chardot, à dimanche 15h pour un prochain Jukebox.
I don't talk about it, be about it. Every day I see cool. If I got it, then you know you got it. Heaven, I can reach you. Pet dog, pet dog, pet dog, my dog, that's all. Pick back and chat, I trap the back for y'all. I rap, I black on tracks, so rest assured. My rights, my wrongs, I write till I'm right with God. When you know, we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright.
Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright.
In my prayers.